France Culture. h 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
20 ans dans la vie d'une famille sous les projecteurs avec sa pièce Les Conséquences. Pascal Rambert sculpte les renoncements et les failles du modèle bourgeois. Il sera mon invité à partir de 13h. Et pour commencer, la traditionnelle séquence critique des midis de culture. Aujourd'hui, on décortique l'actualité des séries. On va donc parler de Pluribus et la nouvelle création de Vince Gilligan, à qui l'on doit évidemment Breaking Bad et Better Call Saul. Et puis on débattra de Los Años Nuevos, nouvelle série de l'espagnol Rodrigo Sorogoyen. Vous écoutez les midis de culture, si, je vous jure. Et avec moi autour de la table aujourd'hui, Olivier Joyard, critique et réalisateur. Bonjour.
Bonjour Marie.
Charles Bosson, critique, essayiste et documentariste. Bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux.
Good morning, Carol. Is there anything we could do to cheer you up?
When you are through a storm, hold your head up high.
Hey, Carol!
Hey, Carol!
We just want you to be happy.
J'ai juste une question. Bien sûr, que voulez-vous savoir?
Comment j'annule tout ça?
Soyez tranquille, Carole. On va découvrir ce qui vous distingue.
Le découvrir, pourquoi?
Afin que vous nous rejoigniez.
C'est quoi ce bruit?
Et voici donc Pluribus, la nouvelle série tant attendue de Vince Gilligan, créateur génial de Breaking Bad et de son spin-off Better Call Saul. On retrouve d'ailleurs dans le rôle-titre Rhea Seehorn, celle qui incarnait l'avocate Kim Wexler aux côtés du dit Saul. Les deux premiers épisodes de Pluribus ont été mis en ligne ce matin sur Apple TV. Apple, qui a entretenu jusqu'ici le flou sur l'enjeu de la série et sur son tournage. Le synopsis tient d'ailleurs en une ligne, le synopsis qui nous est proposé. Hein. La personne la plus misérable sur Terre doit sauver le monde du bonheur. Quelques mots d'abord, Olivier Joyard.
Moi, j'ai vu Pluribus comme une sorte de démonstration de force et de liberté de la part de Vince Gilligan, son auteur. Vous rappeliez Breaking Bad et Better Call Saul, ses précédentes séries. L'ambition est vraiment énorme, la fascination assez immédiate également. Mais on peut s'interroger, est-ce que cette toile qui se déploie face à nous est déjà une grande série ou une sorte de promesse qui va durer peut-être trop longtemps à n'être qu'une promesse?
Charles Bosson.
Oui, c'est assez bien résumé. Moi, je dirais aussi que c'était une des plus grandes attentes de l'année. Et pour l'instant, c'est une grande déception. Mais je dis vraiment, pour l'instant, on a vu 7 épisodes et il y en aura plus.
Hein. Sur ouais, 9. Et il y en aura plus. Il y aura deux saisons. Voilà, qui étaient annoncées. Alors, Olivier Joyard, commençons déjà par ce que vous disiez, c'est-à-dire la force et la liberté qui sont à l'œuvre là et qui sont affirmées très fort par Vince Gilligan.
Oui, c'est ça, parce que en fait, Vince Gilligan, donc il a commencé dans les années 2000, qui était une sorte d'âge d'or pour les créateurs et les créatrices de séries, mais surtout pour les créateurs de séries. Il a commencé sa série Breaking Bad a été mise à l'antenne au même moment que Mad Men. Donc c'est vraiment cette génération-là. Mais lui, il a poursuivi, contrairement à Matthew Weiner. Et là, il y a deux nouveautés, c'est-à-dire une héroïne, déjà, puisqu'il n'y a eu que des héros principaux. Il y a eu des grands personnages féminins dans son travail avant, mais là, c'est une héroïne. Et puis, disons, une touche de science-fiction post-apocalyptique, qui est quelque chose de relativement nouveau aussi pour lui. Et au fond, et c'est plutôt la bonne nouvelle, pas grand-chose n'a changé, d'un certain point de vue. C'est à la fois la bonne nouvelle et les limites peut-être de ce qu'on a pu voir. C'est-à-dire que moi, ce qui me fascine, c'est qu'il est vraiment tellement obsédé, c'est vraiment un obsessionnel, contrairement au grand névrosé, quoi. C'est-à-dire qu'il suit des personnages qui essayent de rationaliser leur présence sur Terre, parce que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de virus qui a happé l'âme, l'esprit, et un peu le corps aussi des milliards de personnes sur la planète. Et il n'y a que 12 ou 13, je ne sais plus, personnes qui ne sont pas sensibles à ce virus. Donc, il s'est passé quelque chose et cette femme va essayer de mener une forme de résistance personnelle intérieure à cette injonction que tout le monde a à être sympathique, sourire, travailler collectivement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose d'assez foisonnant dans la manière, et même très drôle, en fait, dans la manière dont Vince Gilligan Reagan se moque de l'American Way of Life et se moque d'une façon, je dirais, assez cruelle et difficile. On pourra peut-être y revenir parce que, mais ça commence quand même avec des scientifiques qui regardent dans le ciel. Et il y a comme ça, une espèce de corps étranger qui va arriver sur Terre. Ils le voient arriver des mois à l'avance. Ils se demandent ce que c'est. Et tout ça est donc pour eux et pour elles une énigme. Et il y a souvent cette chose-là dans les séries de Vince Gilligan, pour nous spectateurs, spectatrices, et puis pour les personnages, il faut résoudre des situations, il faut les comprendre, les analyser, et ça prend du temps. Et tout ça, moi, j'ai trouvé que c'était toujours, enfin moi ça me touche au fond, dans une période où les auteurs de séries sont vraiment mis en difficulté par l'industrie, que lui ait cette liberté-là de s'exprimer, ça peut avoir des mauvais côtés, c'est l'histoire d'Hollywood au fond, hein. C'est-à-dire que quand on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, parfois, voilà, Coppola notoirement pour moi est un meilleur cinéaste quand il n'est pas, quand il est un peu bridé. Des grands films de Welles sont faits comme ça aussi, mais donc voilà, je trouve qu'il y a cette horlogerie un peu besogneuse et obsessionnelle dans son travail. Il s'épanouit vraiment là-dedans, quoi.
Charles Bosson.
Moi, je dirais que je suis très sensible aussi à ce côté termite, fourmi, c'est-à-dire que c'est toujours des personnages qui refusent l'inéluctable. On entend en ce moment, et c'est formidable, plein d'archives de Deleuze. Deleuze parlait des cinéastes et des artistes en disant « avoir une grande idée, c'est déjà énorme ». Et Gilligan est comme ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, un jour, s'est réveillé avec ce personnage à qui on dit, de petit prof de chimie qui a un peu raté sa vie ou qui retarde le moment de commencer sa vie et à qui on dit « voilà, le cancer arrive, sa vie est finie ». Et il refuse ça. Et il va changer, et tout ce travail très lent du changement va être l'opération de la série. Et Gilligan, comme John Ford, ou comme certains grands cinéastes, il a son territoire, qui s'appelle Albuquerque, qui est la plus grande ville du Nouveau-Mexique, et qui est elle-même une ville avec une histoire. C'est là où on a inventé Roswell, c'est là où on a fait les premiers essais atomiques. Donc c'est un endroit comme ça qui est rongé par le silence, par la désolation, et il filme à sa manière des résistants. Et on a beaucoup, beaucoup travaillé sur les récits de résilience, et lui leur donne une forme hyper concrète. C'est des gens qui visent des trucs, qui râlent, qui trouvent des bouts de plastique, qui les collent, qui ont un espèce d'agenda, qui se confond un peu avec l'agenda du créateur. Et voilà, plus j'en parle, plus je le trouve génial. Mon grand problème, c'est que dans cette série-là, comme il me manque un peu le danger qu'offrait la reine gangster, je finis par voir un peu un créateur et sa carte blanche. Je l'entends penser, je le vois regarder, je l'entends discuter avec cette femme, Racy Horn, qu'il adore et qu'il a vraiment découverte aussi un peu derrière son personnage de Saul Goodman et qui apparaît comme ça, qui est éclatante, qui est une actrice formidable. Mais voilà, ce syndrome de carte blanche donne un côté aussi un peu série mégalo, c'est-à-dire qu'on tourne un peu à vide et que ces scènes dont je viens de parler, j'ai l'impression de les avoir déjà vues dans Better Call Saul et dans Breaking Bad.
Olivier Joyard, vous citiez et vous précisiez vous aussi que le personnage principal est un personnage féminin. C'est une question que je me pose. Il y a eu beaucoup d'argent mis sur cette série. On attend beaucoup de cette série. Est-ce que avec un personnage féminin, elle peut espérer toucher autant le public que avec Breaking Bad, par exemple?
Ah, j'espère bien quand même.
Parce non, mais en fait, moi, c'est une véritable question que j'ai.
Alors, c'est une femme et c'est aussi une lesbienne, c'est-à-dire qu'elle est mise en scène comme telle, appartenant à une minorité au sens propre du terme. Et ce qui est intéressant, pour le coup, là-dedans, avec dans le travail de Gilligan, c'est qu'il s'était déjà, je dirais, occupé de la fin de l'anti-héros masculin. C'est-à-dire que Breaking Bad mettait ça en scène, et je pense que Better Call Saul l'a poursuivi ensuite jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, je crois, que la série s'est terminée. Donc moi, j'ai l'espoir, je peux pas répondre vraiment à votre question, mais j'ai cet espoir que ce surgissement d'un autre imaginaire, d'un autre corps, d'une autre façon de penser et d'être tout simplement, amène quelque chose. Moi, je pense pas que ce soit vraiment un problème ou une crainte qu'on puisse avoir par rapport à la série. Ce qu'il peut y avoir, c'est que la série est très, 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 très décalée avec ce qu'on voit actuellement. C'est vraiment presque une série des années 2000-2010 translatée vers nous. Et en plus, ce côté personnage féminin, bon, c'est quand même pour moi le plus grand autoportrait qu'a fait Vince Gilligan, en fait. Parce que, je veux dire, dans l'épisode 4, elle est devant un tableau d'écriture. Moi, j'étais dans la salle d'écriture de Breaking Bad il y a assez longtemps. Et ils avaient donc, comme beaucoup de scénaristes américains, des petits post-it comme ça au mur. Et ils avançaient comme ça dans l'intrigue et ils en parlaient comme si c'était de la plomberie, en fait. Une sorte de plomberie existentielle, mais une plomberie quand même. Donc moi, je vois beaucoup, beaucoup. Donc en fait, voilà, il peut dire Madame Bovary, c'est moi, quoi. Il peut dire Carole, c'est moi.
Charles Bosson. fond.
Oui, et dans Breaking Bad, le personnage féminin qui jouait la femme du scientifique,
Skyler,
était un personnage qui était détesté par les fans parce que quelque part, elle faisait écran à sa transformation, c'est-à-dire que les fans et les mecs en particulier avaient envie qu'il devienne Scarface, et elle était cette figure un peu qui le ramène à la réalité, etc. Et Better Call Saul était beaucoup plus intéressant de ce point de vue-là parce que Kim Wexler était un personnage qui le renvoyait à ce qu'il voulait être, ce qu'il projetait de devenir, et lui ne faisait que retarder sa transformation, et pendant ce retard, elle apparaissait, et quand vous lisez les grands derniers articles critiques qui ont été faits sur Better Call Saul, on finit par parler des tresses de ses cheveux, des détails vestimentaires de ce personnage qui apparaît mais vraiment de manière picturale comme un tableau, et il y a une référence qui est magnifique là dans Pluribus, c'est Georgia O'Keeffe. C'est tout à coup qui est la grande peintre américaine qui a vécu au Nouveau-Mexique, qui a vécu dans le désert, qui a vraiment peint ces formes-là. Je vous raconte pas, mais il y a une scène géniale avec elle et là-dessus. Et je pense que c'est une très très belle référence. Et voilà, moi j'ai envie de la continuer. Surtout que Gilligan a quand même commencé dans X-Files, dans la science-fiction, et que là quelque part il y revient en faisant danser Body Snatchers, Je suis une légende, évidemment La quatrième dimension et un peu de Soleil vert. Donc c'est pour ça que moi pour l'instant la déception c'est une attente. C'est le roi des slow burners, ces séries qui mettent très longtemps à démarrer. Et je me dis qu'à un moment ça va démarrer. Et quelle chance il a d'avoir signé deux saisons d'avance.
Oui, il y a deux saisons, il faut le rappeler. Un dernier mot, Olivier.
Ouais, bah, c'est quand même aussi une série, je dirais, d'un point de vue politique sur la solitude. Qu'est-ce que c'est que la solitude de résister à un ordre établi actuellement? Il y a vraiment, dans la Constitution américaine, la poursuite du bonheur. C'est un des seuls pays qui a ça dans sa Constitution. Et là, c'est vraiment de quoi, ce dont il s'agit, quoi. C'est-à-dire qu'il y a il a une façon de montrer que le sourire américain est une forme de fascisme, ou en tous les cas s'impose de façon extrêmement délétère sur les êtres. Et là, il y a des références à Bartleby dans la série, hein, et à un moment, il dit « je préfère ne pas ». C'est pas elle qui le dit, mais enfin, je préférerais ne pas, I prefer not to. Il y a même des références à Lost, enfin, c'est très très étrange et très étiré, et on n'est effectivement parfois pas entièrement convaincu par cette façon qu'il a de créer un puzzle dont on découvrira l'image seulement à la fin, mais on veut bien lui accorder cette attente-là.
Pluribus, la nouvelle série de Vince Gilligan, qui est à partir d'aujourd'hui même sur Apple TV. Et c'est l'heure de votre coup de cœur, Charles Bosson, The Chair Company.
Eh bien oui, je vous apporte une série un peu ovni, comme seuls les humoristes américains produits par HBO, attention détail, ont les moyens de le faire aujourd'hui. Donc comme vous l'avez dit, ça s'appelle The Chair Company, l'entreprise de chaises, de et avec Tim Robinson, et co-créée avec Zach Cannon, donc deux anciens du SNL. C'est l'histoire
Saturday Night Live.
C'est l'histoire d'un père de famille quarantenaire qui s'appelle Ron, qui est chargé de superviser l'ouverture d'un nouveau centre commercial dans l'Ohio. Il a une fille qui va se marier, une femme qui se lance dans l'auto-entreprise, et lui, avec son costume grisâtre, sa cravate, ses lunettes à monture métallique, un peu en travers de son nez, a tout du parfait monsieur tout le monde, mais pas exactement l'étoffe d'un héros de série. Il maîtrise mal les nouveaux codes de bon comportement au sein de l'entreprise, et en famille, il a l'art de mettre les pieds dans le plat et de provoquer ces longs hiatus malaisants qui font depuis une bonne vingtaine d'années le sel de ce qu'on appelle la cringe comédie, la comédie du malaise. Mais, bien qu'elle se passe en partie au bureau, comme la célébrissime The Office, le personnage interprété par Tim Robinson n'a plus l'assurance tonitruante de ses prédécesseurs, qui étaient joués par Ricky Gervais et Steve Carell. Le soir de sa présentation en public, après avoir parlé avec une certaine éloquence, Ron retourne s'asseoir sur son estrade et devant tout le monde, il tombe de sa chaise. Et ce gag burlesque enfantin, ce degré zéro de la comédie, devient le trou noir de la série. Car ce qu'il vit à ce moment-là comme une humiliation publique et professionnelle va être le début kafkaïen d'une chute paranoïaque dans une sorte d'inframonde de l'Amérique de l'entreprise, dont ce personnage anxieux et très attachant n'arrive pas à se départir. Et l'idée très originale de cette comédie de bureau, c'est d'emprunter avec une rigueur implacable les codes du cinéma de complot dans la lignée des Hommes du Président d'Alan J. Pakula, vous vous rappelez ce grand chef-d'œuvre, mais alors cette fois sans Robert Redford, avec ses informateurs qui murmurent dans des coins, des espaces emboîtés, étouffants, des nuits blanches à transpirer dans le noir de son bureau, à comparer des chiffres, des noms propres qui finissent par perdre toute signification et qui se réassemblent dans un espèce de texte délirant. La série bondit d'un genre à l'autre, d'une comédie de manière hilarante hilarante à un drame intime poignant et devient de plus en plus troublante pour le spectateur quand il devient impossible de savoir si ce personnage délire ou s'il détient une part de vérité. En somme, une grande série pas trop longue à regarder, 8 fois 30 minutes, sur un pays tombé de sa chaise et qui voit son assurance se dérober sous ses pieds.
The Chair, compagnie de Tim Robinson et Zach Cannon, disponible sur HBO Max.
¿Cómo has estado todo este tiempo?
Estoy bien. Mal, bien. La vida.
Feliz año.
Feliz año.
Una, dos, y...
Tenemos que hacer más esto, ¿no?
Además en Berlín.
Hay que llevar bigote. All the love that you're giving me,
it helps me see. What's right? 10 ans dans la vie d'un couple, c'est ce que propose Los Años Nuevos, série espagnole disponible sur la plateforme Arte.tv et à l'antenne à partir du 20 novembre prochain. 10 ans, oui, mais chacun des 10 épisodes se passe un soir de réveillon du nouvel an et ça commence donc le 31 décembre 2015 par la rencontre de 2 trentenaires, Anna et Oscar. Elle est serveuse mais journaliste de formation, lui est médecin urgentiste. Et on va suivre ainsi, au fil des soirées de fête, leur histoire, par touche, forcément parcellaire. À la création de cette série et à la réalisation de certains épisodes, le cinéaste Rodrigo Sorogoyen, qu'on a découvert en France avec le film Asbestas en 2022. Quelques mots d'abord, Charles Bosson.
Pour moi, c'est une réussite totale. C'est vraiment une des plus grandes séries de l'année. Ça m'a complètement surpris. J'ai redécouvert Sorogoyen et c'est, je pense, une très très grande émotion.
Olivier Joyard.
Moi, je dirais l'Espagne en force. Parce qu'après la Messias l'année dernière, que j'avais trouvé sublime, c'est vraiment le pays européen le plus impressionnant, je trouve, en ce moment, dans sa capacité à produire des séries très variées. Et là, Los Años Nuevos, c'est vraiment une expérience à la fois impressionnante, mais aussi presque en sourdine, d'une sorte de modestie dans le ton que j'aime bien. Voilà, c'est un mélange qui me plaît. Et on peut dire qu'une série qui essaie de se référer plus ou moins directement à Scène de la vie conjugale, qui était un peu la grande série sur le couple de Bergman, c'est quand même culotté en 2025.
C'est pas mal. Charles Bosson, alors pourquoi la plus grande série? C'est un grand mot, quand même. Oui, on arrive bientôt à la fin de l'année, je comprends. Mais...
Et puis j'aime bien toujours dire que c'est... Oui. Je suis très enthousiaste. Non, c'est une série qui est à la fois, qui m'a beaucoup surpris parce que, bon, Sorogoyen, c'est un cinéaste un peu des pièges, des thrillers, qui a une certaine cruauté. Moi, j'ai une certaine admiration pour la forme d'Asbestas, qui est extrêmement bien, qui est extrêmement... Voilà. Mais la limite, c'est cette cruauté, c'est ce côté un peu, cette pointe de sadisme. Tout à coup, je découvre chez lui une espèce de rondeur, de douceur. Olivier Joyard parlait très, très justement de Scène de la vie conjugale, qui est vraiment la série qui montre à quel point le couple est un sujet passionnant pour une étude sérielle. C'est-à-dire que, à travers le couple, parce que le couple, il n'y a pas de continuité dans la vie d'un couple, c'est que des morceaux. Et la série raconte extrêmement bien ça. Et puis il y a des pauses, c'est-à-dire qu'on n'est jamais toujours ensemble. Donc c'est une forme absolument passionnante pour étudier ce que c'est qu'un couple. Les Scènes de la vie conjugale avaient aussi donné en Suède une sorte de pic du divorce. C'est-à-dire que tout à coup, les gens qui voyaient ça allaient divorcer. C'est pas le cas de Los Años Nuevos, qui est une série qui est traversée par un autre quelque chose de terrible, qui a été le Covid les 10 dernières années, qui est une sorte de trou noir aussi à un moment un peu dans la série. Et c'est une série qui a beaucoup confiance, moi je trouve, dans le couple et dans les couples, parce qu'en fait, à travers ce couple, dans chaque épisode, il regarde un autre couple. C'est très beau, ça donne un espèce de tableau ou de petit portrait où tout à coup on dit, comme on peut s'amuser dans la vie à regarder un couple et à imaginer comment ils s'aiment, comment ils vivent, comment ils traversent la vie, le couple du film s'amuse à faire ça. Et en fait, autour d'eux, comme un kaléidoscope, on raconte à la fois leur histoire, mais on raconte 10 ans de la vie de l'Espagne, et notamment grâce à un emploi assez passionnant de la musique. Il n'y a pas de musique extra-diégétique, ce ne sont que des tubes que moi je ne connaissais pas, d'un certain milieu, hein, ce sont des gens plutôt aisés quand même, avec une certaine facilité, et ce sont vraiment la musique qu'ils ont écoutée, c'est les musiques, je pense, de sa jeunesse, de Sorogoyen, et de ses 2 co-créatrices, qui viennent comme ça nourrir une sorte de biographie émotionnelle des personnages. Et moi, quand j'ai entendu cette musique, non seulement je l'ai mis dans ma playlist et je l'écoute tous les jours de manière obsessionnelle, mais j'ai ressenti l'émotion que peut véhiculer ce que c'est qu'un tube. C'est-à-dire que ça marque la vie des gens, et ça marque à la fois les peines et les élans de cœur.
Olivier Gérard.
Je me demande si Charles Bosson va mettre cette playlist le 31 décembre quand il passera cette soirée. Je sais pas encore, mais peut-être bientôt. Ce qui est intéressant, c'est que vous parliez du Covid. Ça commence quand même 5 ans avant le Covid. C'est-à-dire que ça va de 2015 à
plein milieu.
Au 31 décembre 2024-2025. Donc c'est une série évidemment sur le couple et sur le temps en même temps, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une simultanéité de cette réflexion et de ses effets. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont la série a de à la fois réduire le temps, le contracter de façon très forte et de l'étirer au maximum. Et moi, disons que les exemples que je pourrais prendre spontanément, ce sont les scènes de sexe, parce que pour des scènes de sexe hétéro, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi fin et assez précis sur ce que je dirais le... Alors, pas complètement, mais et puis ça dépend
le temps réel,
des personnes.
Vous voulez dire
le temps réel d'un orgasme, ouais. Qu'est-ce que c'est, ouais. Combien de temps ça prend, qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui redescend, toutes ces choses-là, il les filme. Et en même, donc ça veut dire que, et il fait pas que ça, hein, c'est aussi des repas, des conversations. La série est au fond faite de fragments qui sont assez longs, c'est-à-dire que le temps court passe plus lentement dans la série que le temps long qui lui est très ellipsé, puisqu'on passe d'un an à un an après l'autre. Et donc moi, ça me donne vraiment quelque chose de très beau, puisque on a le temps d'éprouver l'attraction physique entre ces deux êtres, qui est d'abord la première chose qui se passe entre eux, et ensuite autre chose, c'est-à-dire leur transformation intérieure en tant qu'êtres séparés, puis ensemble, et puis tout le doute qui va arriver, quoi. Moi, je trouve que c'est... En fait, il y a quelque chose de très très beau qui se passe, c'est que la série est coupée en deux par un des plus beaux épisodes de série que j'ai vu depuis longtemps, je pense, passe à Berlin, le cinquième, qui est donc, voilà, au bout de 5 ans de relation à peu près, quoi. Ils se retrouvent en boîte à Berlin pour un voyage qu'ils font, et là, la série, tout à coup, dévite sa trajectoire. C'est-à-dire qu'il se met... Ben, on arrive dans une ville où il fait froid, et il y a une forme de météo des sentiments. C'est-à-dire qu'on va comprendre que quelque chose va se fissurer à ce moment-là, et ensuite, ça se déploie pendant tout l'épisode, et il y a même le côté assez réaliste de la série qui peut être un peu plan-plan par moment, hein. Moi, je trouve quand même qu'il y a des moments où il pourrait accélérer un peu, où s'intéresse d'être un peu plus charnel dans sa façon de filmer hors sexualité. Mais il y a une conversation qu'a l'héroïne avec un type qui est comme ça censé garder des vêtements. Mais on se demande si on est dans une série de Lynch. Il y a quelque chose de très étrange. On rentre dans sa psyché et juste après, il se passera quelque chose entre eux qui va faire basculer la série dans une autre dimension.
Ouais, c'est un personnage presque comme un oracle dans la boîte. Alors, c'est pas filmé là-bas parce qu'on n'a pas le droit, mais qui s'appelle le Berghain, qui est l'endroit où tout le monde fantasme. Alors, moi, je suis allé au Berghain et je peux vous dire que ça se passe exactement comme ça. C'est-à-dire qu'on voit les gens qui arrivent, qui baissent la tête, ils sont tous habillés en noir. Il y a quelqu'un qui
en espérant rentrer,
ne parle surtout pas anglais ou américain. Ils détestent ça, pas de couleur. Et tout à coup, on rentre dans cet endroit qui est filmé en plan fixe. C'est vrai qu'on a toujours tendance à filmer les boîtes de nuit de manière très agitée, avec les caméras épaules et tout ça. Et en fait, ils le filment. Avant, il y a une séquence dans un musée, en fait, il les filme de la même manière, c'est-à-dire que les personnages se cherchent dans cet espace, et à ce moment-là, il y a cette scène du vestiaire, on spoile pas grand-chose, parce qu'on dit pas ce qui s'y passe exactement, mais il y a une espèce d'oracle, on est presque aussi dans le bar de Shining, tout à coup, il y a un personnage qui en sait plus que les autres, et tout à coup, effectivement, il y a des petites déviations. Alors, il faut citer les acteurs, parce qu'ils sont extraordinaires, c'est Francesco Carril, qu'on connaît, les Espagnols le connaissent déjà bien, parce que c'est un partenaire de Jonas Rueba, qui est souvent dans ses films, et Iria del Rio, qui elle est moins connue, elle est presque plus connue au théâtre, même si elle a déjà une belle filmographie de séries. Et effectivement, l'alchimie entre ces deux personnages et entre les gens qui composent leur famille est extraordinaire. Et sur les scènes de sexe, elles ont été faites donc sans coordinateur d'intimité, c'est quelque chose qui se fait beaucoup aujourd'hui. Et on sent qu'elles sont faites avec une délicatesse, une précision, un travail entre les différents metteurs en scène, parce qu'il y en a trois. Sorogoyen fait 4 épisodes, mais il se comporte vraiment comme un showrunner, c'est-à-dire que ces metteurs en scène lui apportent des images qu'il va ensuite superviser au montage. Et il travaille avec 2 co-créatrices. Et tous les deux personnages sont nourris par leurs histoires intimes, leurs histoires amoureuses. Et ce qui est très beau, c'est qu'il n'est impossible de choisir, de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. C'est quelque chose de très contemporain et de très réussi. Moi, j'entends différentes personnes me dire « Ah, quel salopard » ou « Quel égoïste » en parlant d'elle. Mais ça change d'une personne à l'autre. C'est-à-dire c'est une surface de projection. On ne sait jamais exactement qui l'intéresse le plus.
Olivier Joyard, sur ce point-là, peut-être rapidement.
C'est là où la série pourrait, à mon avis, être un tout petit peu plus forte qu'elle ne l'est. Parce que, en fait, ce qu'on peut dire quand même de cette série, c'est qu'elle montre donc des bourgeois, des personnes assez banales finalement, ce qui n'est pas un mal en soi. Le cinéma et les séries sont pleines de personnages très variés et ça peut fonctionner. Mais il y a quelque chose de d'un tout petit peu étrange dans la façon de montrer donc ce couple hétérosexuel sans vraiment questionner ces dynamiques de genre, etc. Là, c'est vraiment parfois les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Il y a quelque chose d'un tout petit peu old school dans la façon de déployer ces enjeux que je trouve quand même hyper importants aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'être un couple aujourd'hui et qu'est-ce que c'est qu'être un couple hétérosexuel? Ça peut être interrogé. Là, on n'est pas trop dans la déconstruction, ce qui est un choix, je crois que c'est complètement assumé.
On
c'est pas comme s'ils ne savaient pas que
on
ça existait.
On part 10 ans en arrière.
Tout à fait, mais enfin, il y a 10 ans, les mêmes problématiques existaient, quoi. Donc moi, j'ai trouvé qu'il y avait un tout petit manque d'aspérité, peut-être de sens critique, en fait, sur ce que vivaient les personnages. Et à partir de ce socle-là, qui est un socle, je dirais, relativement conservateur dans sa conception du couple, etc., la série a quand même un regard relativement progressiste. C'est-à-dire qu'elle parvient, dans sa deuxième partie, à montrer ce qu'on peut, tout simplement, ce qui s'appelle le respect de la singularité de l'autre et ce qui peut se passer de violent dans un couple n'est pas effacé, mais disons est tourné d'une façon. On peut pas trop en parler sans divulguer vraiment, mais je trouve que sur ce point, la série est assez finalement retombe sur ses pieds.
Pour finir, peut-être Charles Bosson, c'est ce qu'évoquait Olivier au début de cette émission. Le cinéma, enfin la série espagnole, on a cité la Messia, mais il y avait aussi Querer, et tout ça, c'est sur Arte quand même, faut le dire.
Oui, il y avait aussi Antidisturbios, qui était la série précédente
de
Sorogoyen, et effectivement, tout à coup, on découvre en plus des séries qui se répondent avec des acteurs qui passent d'une série à une autre, des thématiques, des lieux et certaines influences, et là notamment celle de Linklater et de sa trilogie Before, il y a des choses comme ça qui travaillent un peu cette série et d'autres.
Donc oui, la série espagnole
sur l'Espagne,
en
Movistar Plus, c'est une plateforme espagnole qui vraiment, en ce moment, est pour moi le lieu le plus intéressant en Europe pour créer des séries.
Eh bien, merci à tous les deux. C'était Los Años Nuevos de Rodrigo Sorogoyen, disponible ce jeudi sur Arte, la plateforme, et à partir du 20 novembre à la télévision. Charles Bosson, Olivier Joyard, merci à tous les deux d'être venus dans les Midis de Culture. On se retrouve très vite pour reparler d'actualité culturelle des séries, et évidemment vous qui nous écoutez, bien toutes les références, toutes les infos sont comme d'habitude sur la page très très bien faite des Midis de Culture.